L'accent des autres, avec les médias francophones publics.
Bienvenue, voici l'actualité vue par les médias francophones publics et les partenaires que sont RFI, Radio-Canada, la Radio-Télévision Suisse, ICI et la RTBF. Il va d'abord être question aujourd'hui de la langue française à travers une enquête au Canada pour commencer. Et ce constat, Nadi Mobarak, à la Banque du Canada, un dirigeant sur quatre n'a pas le niveau requis en français.
Oui, selon un rapport d'enquête, l'institution a manqué à ses obligations en matière de langues officielles.
À propos de la langue française encore, elle est désormais une simple langue de travail au Niger. Nicolas Sûr, le Haoussa est érigé au rang de langue nationale.
C'est ce que dit la charte de la refondation qui remplace la constitution et que vient de promulguer le général Tiani, auteur du coup d'État contre Mohamed Bazoum.
C'est l'un des plus importants licenciements collectifs de ces 15 dernières années en Belgique. La direction des hypermarchés Cora annonce son intention d'arrêter l'activité de ses 7 magasins début 2026, Jacques Remers.
1779 emplois sont menacés, sans compter l'impact de cette restructuration sur le personnel employé dans les galeries commerciales ou les commerces alentours. La direction dit avoir exploré toutes les pistes de cession, mais sans succès.
La guerre commerciale se poursuit entre les États-Unis et la Chine, mais Washington décrète une pause de 90 jours dans l'application de ses nouveaux droits de douane, un délai que la Suisse compte bien utiliser pour négocier, Pierre-Anne Chauffat.
Oui, il s'agit de se professionnaliser pour accéder plus efficacement à l'administration américaine et faire valoir nos investissements aux États-Unis.
Enfin, les députés français ont voté cette semaine une proposition de loi relative à la parité des listes électorales qui alternent hommes et femmes dès les prochaines municipales. Ce sera obligatoire, y compris dans les communes de moins de 1000 habitants. Voilà donc pour les titres de cette semaine. Les conclusions donc tout d'abord d'une enquête, elle révèle que près d'un dirigeant sur quatre à la Banque du Canada ne parle pas suffisamment français, Nadi.
Voilà, des informations obtenues par Radio-Canada révèlent notamment que la numéro 2 de la Banque du Canada, la première sous-gouverneure, Carolyn Rogers, n'est toujours pas pleinement bilingue, presque à mi-parcours de son mandat de 7 ans. Le gouvernement Trudeau lui a confié ce mandat, même si elle ne répondait pas aux exigences du poste en matière de bilinguisme. Carolyn Rogers a suivi des stages intensifs de français et ses formations de français sont bonifiées par des rencontres individuelles avec un professeur. Mais elle n'est pas encore capable de gérer et de superviser des employés dans sa langue seconde. Selon la Banque du Canada, 87 dirigeants ne sont pas assez bilingues pour gérer leurs employés dans la langue officielle de leur choix. C'est près du quart d'entre eux.
Et face à cette situation, Nadi, une plainte a été déposée au commissariat aux langues officielles.
Oui, une plainte déposée par un ancien employé de la banque. L'avocat Darius Bossé le représente.
Madame Rogers, en fait, la banque le dit, ça va faire 3 ou 4 ans maintenant depuis sa nomination, puis elle rencontre encore pas la norme linguistique qui est exigée par la loi sur les langues officielles. Alors, c'est bien qu'elle suive des cours, c'est juste qu'elle demeure que pendant toute cette période-là où elle œuvre, elle représente la banque à titre de numéro 2, elle ne satisfait pas la compétence linguistique qui est exigée par la loi sur les langues officielles.
D'ailleurs, selon le commissariat aux langues officielles, la plainte contre la Banque du Canada est fondée.
Alors que répond la Banque du Canada?
Eh bien, elle affirme qu'elle a accepté de mettre en œuvre les recommandations pour se conformer en tout point à la loi sur les langues officielles. Entre-temps, le sénateur conservateur Claude Carignan voudra poser des questions à la Banque du Canada en comité parlementaire après les élections fédérales.
Le français, on le parle aussi en Afrique, mais le français n'est plus désormais la langue officielle du Niger. Il n'est plus qu'une langue de travail. C'est ce que dit la charte de la refondation. Elle va régir le pays pendant les 5 années qui viennent, Nicolas, jusqu'aux prochaines élections.
Dans la constitution du 25 novembre 2010, le français était la langue officielle et toutes les autres langues du Niger avaient à égalité statut de langue nationale. Désormais, la seule langue nationale est le Haoussa, la langue la plus parlée du pays et aussi celle du puissant voisin nigérian. Les autres langues locales, le Zerma, pratiqué à Niamey et dans l'Ouest, le Fulfulde de la communauté Peul ou encore le Tamashek des Touaregs deviennent de simples langues parlées. Certains s'inquiètent donc d'une possible hiérarchisation des langues et donc des communautés du pays. Quant au français, parlé par 13% de la population, il obtient, comme l'anglais, un statut de langue de travail.
Et cette décision est prise, Nicolas, alors que les autorités au pouvoir depuis le coup d'État à Niamey poursuivent leur offensive souverainiste avec la France dans leur collimateur.
Oui, le régime militaire en froid avec Paris a décidé le mois dernier de quitter l'Organisation internationale de la francophonie qu'il accuse d'être à la solde de la France. Il a aussi rebaptisé plusieurs rues et institutions de Niamey qui portaient des noms de Français. Même politique au Burkina et au Mali, ces deux pays eux aussi dirigés par des juntes militaires et avec qui le Niger est allié au sein d'une nouvelle alliance des États du Sahel, avaient eux aussi déjà relégué le français au rang de simple langue de travail.
Nicolas Sûr pour RFI.
L'accent des autres.
En Belgique, près de 1800 emplois directement menacés par la fermeture annoncée des 7 hypermarchés Cora du pays. 1800 emplois, sans compter le personnel des galeries commerciales et des commerces situés à proximité de ces magasins. L'annonce est tombée mardi dernier, Jacques, à l'issue d'un conseil d'entreprise extraordinaire.
Et à l'annonce de l'intention de fermeture, le personnel des hypermarchés est sous le choc. C'est cette cliente qui résume le mieux leurs sentiments.
C'est scandaleux. Je trouve licencier 2000 personnes, c'est juste pas faisable.
Et pourtant, la procédure de restructuration est bien engagée. La fermeture des 7 hypermarchés Cora concerne près de 1800 travailleurs, 1779 exactement. Chaque emploi est important. La moitié a plus de 20 ans d'ancienneté et 60% d'entre eux a plus de 45 ans. Pour certains travailleurs, retrouver un emploi sera un vrai défi.
Moi, je n'ai pas vraiment de diplôme, je n'ai toujours fait que hôtesse de caisse, donc je ne sais pas ce que je pourrais faire d'autre. Donc je n'ai pas beaucoup d'opportunités. Hier matin, j'ai regardé des offres d'emploi, mais c'est être ménagère. Mais bon, physiquement, je ne pense pas que je saurais.
Ce matin, en me réveillant, je me suis dit, non, ce n'était pas un cauchemar, c'est la réalité.
Voilà, une réalité très dure qui concerne aussi les galeries commerciales et les commerces autour de ces hypermarchés, avec là aussi, Jacques, de nombreux emplois menacés.
C'est le second impact indirect de cette restructuration. Quelles conséquences pour ces enseignes, tous ces petits commerces, parfumeries, sandwicheries, cordonneries et autres, installés à proximité? La fermeture des Cora, c'est donc la fin du concept tout en un. La tendance est aux plus petites surfaces commerciales, les commerces de proximité. Un constat échec assumé par le directeur général de Cora Belgique, Olivier Haller.
Nous opérons sur des très grandes surfaces, 12-13 000 mètres carrés de surface en moyenne, et donc ça ne peut se concevoir qu'avec une main-d'œuvre intensive, on est généraliste. Et je rajouterais pour Cora Belgique le fait qu'il n'est pas possible d'aller plus loin sur nos rendements d'échelle, que ce soit de la logistique, l'informatique, enfin l'ensemble des supports nécessaires pour exploiter des hypermarchés. Avec 7 hypermarchés, nous n'avons pas les bons rendements d'échelle et on est à la limite de ce que l'on peut faire comme économie.
Les autorités ont annoncé la mise en place d'une cellule de crise associant les trois régions. L'objectif déclaré est d'anticiper l'arrivée des travailleurs sur le marché de l'emploi et de préparer aussi les modalités d'un accompagnement efficace.
Les droits de douane imposés par les États-Unis, on y revient un instant parce qu'ils continuent de dominer l'actualité économique et politique en Suisse notamment. La pause de 3 mois finalement annoncée mercredi soir par Washington a provoqué un certain soulagement, Pierre-Han.
Les produits suisses exportés aux États-Unis sont désormais taxés à hauteur de 10% au lieu des 31% annoncés, autrement dit au même taux que les concurrents directs des entreprises helvétiques. Pour le ministre de l'économie Guy Parmelin, cette suspension provisoire de 90 jours, c'est un peu le verre à moitié vide ou à moitié plein.
10% c'est mieux que 31%. Tout ce qui allège la facture est bon à prendre et le Conseil fédéral salue cette diminution de peine, si vous me passez l'expression.
Diminution mais pas suppression. Pour la Suisse qui a aboli l'essentiel de ses droits de douane, les 10% sont encore trop. Il s'agit maintenant d'exploiter ce délai pour négocier.
Et comment votre pays va-t-il s'y prendre ?
Eh bien, elle cherche avant tout à améliorer ses accès à l'administration américaine pour faire valoir l'importance des investissements helvétiques aux États-Unis. La Suisse occupe le 6e rang mondial en la matière et y génère 400 000 emplois qualifiés. À cette fin, il a nommé cette semaine un ambassadeur comme envoyé spécial chargé des relations avec les États-Unis. En attendant leur déplacement prochain à Washington, le ministre de l'économie a déjà pu échanger avec le représentant américain au commerce et la présidente de la Confédération, Karine Keller-Souter, a décroché caché un entretien téléphonique avec Donald Trump, mentionné même par le Washington Post. Les deux ont fait valoir les mêmes arguments sur l'importance des liens économiques entre nos deux pays, comme l'explique Guy Parmelin.
Pour la Suisse, c'est important d'avoir des signaux positifs si on veut que des investissements déclenchant de l'emploi aux États-Unis continuent à se développer. Et il y en a déjà qui sont en cours de route. Que ça ait été relaté dans le Washington Post, ça montre que c'est quelque chose qui a été apprécié.
De là à voir ce téléphone comme un élément déterminant dans le revirement provisoire du président américain, il y a un pas que nous ne franchirons certainement pas.
On va se quitter sur un vote en France. Ce lundi, les députés ont voté dans la douleur une proposition de loi sur la parité, le texte étant en fait aux communes de moins de 1000 habitants l'obligation d'avoir des listes alternant des femmes et des hommes, et ce sera d'application dès les municipales de l'année prochaine. Une stricte égalité qui inquiète beaucoup d'élus, en fait inquiet de ne pas trouver assez de femmes pour s'engager en politique. Crainte infondée, répond le conseil municipal de Chambon. C'est une commune de un peu moins de 1000 habitants à une bonne demi-heure de La Rochelle. Et ici, le maire est une mère. Elle vous a reçu dans son bureau, Julien Fleury.
Jeune femme et métisse.
Bah merci de nous accueillir.
Angélique Peintre a l'habitude de détonner, fière d'avoir été élue à moins de 40 ans sur une liste paritaire alors que la loi ne l'imposait pas encore.
Je pense que c'est un enjeu majeur pour l'enrichissement des débats, d'avoir une parité dans un monde qui est plutôt masculin. Je trouve que ça fait une vraie progression.
Et ça fait monter des priorités comme l'école, justement menacée de fermeture actuellement à Chambon.
Peut-être que le point de vue d'une femme qui aujourd'hui ont quand même la charge générale des enfants plus que les hommes, peut-être amener une combativité plus importante.
Combativité saluée par le premier adjoint Pascal Maginot.
Nous, ça n'a jamais été une question, que ce soit une femme ou un homme. Voilà, c'est...
Qu'est-ce qui prime ?
La compétence. La compétence, le savoir-être, le savoir-faire. Mais je pense qu'il n'y a pas de difficulté à trouver des femmes dans les communes. Si on va les chercher, on va les trouver.
Même au niveau du personnel, regardez.
On a un secrétaire de mairie et une secrétaire adjointe de mairie.
On a une mère-femme, donc on a déjà beaucoup de social, mais je pense qu'il y a beaucoup de communes où ça va en amener et c'est plutôt pas mal.
Mais pour réussir ce pari de la parité, il faut peut-être aussi rendre la fonction d'élu plus attrayante.
Et peut-être plus compatible, pour les femmes en tous les cas, avec leur vie professionnelle, leur vie de famille avec les enfants.
Angélique Peintre qui a dû lâcher son emploi pour se consacrer à son mandat d'élu, indemnisé à hauteur du SMIC.
Reportage à Chambon de Julien Fleury pour Ici La Rochelle. C'est ici qu'on va refermer l'accent des autres pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine en compagnie, comme toujours, des médias francophones publics.